La prison doit cesser d'exister. En ce début de 21e siècle, véritable vestige d'autres temps et d'autres mœurs, elle demeure avec son cortège de misère et de haine. Espace de la non-vie et du non-droit, cet archaïsme barbare reste un lieu de destruction systématique pour l'individu. Il faut modifier les esprits, toucher les causes profondes qui font qu'elle demeure alors même que le constat de son échec n'est plus à faire. Les anarchistes entendent rompre le silence criminel qui entoure la lutte des prisonniers et informer de la réalité tant carcérale que judiciaire. Nous inscrivons ce combat dans celui plus vaste, pour une société sans classe ni état. Il sera victorieux quand auront disparu le droit du plus fort et la loi des puissants. La prison a fait son temps. Quel crime !
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes sur Radio Libertaire 89.4. Et c'est l'émission Ras les murs qui commence après Femmes libres. Dans le studio, il y a Nicole.
Bonsoir, bonsoir Pascal. Pascal n'est pas dans le studio, il est à la maison, au chaud. Et donc, on le salue parce qu'il écoute quand même l'émission. Donc, on va saluer Camille.
Camille qui retourne à la technique.
Bonsoir.
Voilà, donc nous sommes que tous les trois. Mais nous sommes bien.
De l'équipe, et nous voilà. Avons des invités, Nicole.
Alors, nous avons les invités, les entendeurs de voix. Et on vient de me dire qu'ils n'entendaient pas des voix, c'est très ennuyeux tout ça. Donc, c'est Chantal qui sera là. Donc,
Elle est là.
Voilà, bonsoir Chantal, membre fondateur du réseau Rêve France. Yann.
Bonsoir.
Bonsoir. Et puis
Magali,
donc bonsoir. Vous êtes en train, donc si j'ai bien compris, vous êtes en train de monter un réseau, voilà, d'entendeurs de voix.
C'est voilà. Ça.
Donc, ils nous expliqueront ça tout à l'heure. Donc, ils vont passer, ils vont être, l'interview sera après le billet d'humeur, parce que ils ont des, comment on dit ?
Eh bien, ils ont des activités diverses.
Voilà, et variées. Donc voilà, donc ça va être on fera les infos donc après l'interview. Il y a quelques infos, il y a aussi pas mal d'annonces militantes.
On a une nouvelle lettre de Ringo Livio qui est toujours dans sa prison en Belgique.
Ouais, on essaiera de voir.
Bah, de lire la précédente quand même, parce que
ouais.
Là, il ne faut pas prendre du retard. Hein,
ouais. ça va puis il y a quand même des infos par rapport à Moumia aussi. Hein.
Moumia Abou Jamal, on l'a lu.
Donc
elle
on vous
en
avait
anglais,
dit
mais on a un peu compris, pas tout.
On vous avait dit que la semaine dernière, il était sorti donc, du quartier d'isolement, qu'il est donc dans la prison normale avec les autres détenus. Il n'a pas coupé ses...
Locks, dreadlocks.
Voilà. Il n'a pas coupé, voilà.
Ses cheveux.
Mais voilà. Donc, on va passer au billet d'humeur.
Jeudi dernier, un certain nombre de détenus, on pourrait dire une cinquantaine, se sont révoltés, si je puis dire. Ce n'est pas une vraie mutinerie, puisque ça a été estimé comme étant une mini-mutinerie. Le nombre exact de détenus qui ont refusé de remonter de promenade à la maison d'arrêt de Nanterre, ce jeudi, donc, était 46. L'information nous vient de l'administration pénitentiaire, nous disant que le bureau des surveillants a été saccagé et que le matériel informatique a été cassé. Il a fallu évidemment faire venir les ERIS, les fameuses équipes cagoulées, masquées et qui tapent dans le tas. Et ce qui est assez problématique, c'est que l'information ne vient pas de la pénitentiaire, en tout cas pour les causes de cette manifestation. Interrogée par les médias, l'administration pénitentiaire a fait semblant de croire qu'elle ne savait pas pourquoi cette mutinerie ou mini-mutinerie avait eu lieu. Le comble de tout, c'est que c'est finalement la police qui nous a donné la réponse. Ils se sont révoltés car le chauffage ne fonctionne pas. En clair, il n'y a pas besoin de frigos dans les cellules, ce sont les cellules qui sont des frigos.
Yeah.
Voilà, donc c'était The Sillman Brothers Record Hop.
Merci, on est toujours au 01 43 71 89 40 pour nous appeler pendant ces plages musicales, en rappelant que l'adresse de Ralémur pour le courrier, c'est 145 rue Amelot, et sur Internet, http://rl.fédération-anarchiste.org. Nous voici arrivés avec l'interview.
Oui, mais on va dire un petit mot avant, juste un petit mot, une pensée pour tous les tolards et les tolardes. Alors, je ne sais pas si c'est chez les femmes, c'est pareil, mais enfin, chez les hommes, à Fleur et Mérogis, il y a tellement de fenêtres qui sont cassées que l'administration pénitentiaire a distribué des gants et puis des bonnets.
Voilà,
parce que comme ils les remplacent pas, donc ce qui fait que ils les laissent comme ça, donc les mecs, c'est même plus un frigo, ça devient une glacière, quoi, les cellules.
Eh ben, on va dire un congélateur.
Voilà, un congélateur, et donc peut-être qu'il ferait mieux de leur donner des petits appareils de chauffage plutôt que de leur donner des bonnets et puis des gants, parce qu'il paraît quand même que c'est très 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 froid, ben on imagine.
Oui, ben ça on peut imaginer qu'à ce moment-là la cellule c'est presque comme dans la rue.
Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc courage à vous, et puis bon, il faut brûler les prisons, quoi, comme ça on aura chaud.
Ben, y a un beau livre qui s'appelle C'est beau une prison qui brûle.
Voilà, bien, donc on va revenir avec
nos voix. Trois porteurs de voix, donc Chantal, Yann et Magali.
Alors peut-être que Yann va nous expliquer. Tu n'entends pas de voix, Yann, on m'a dit. Tu m'as dit que tu n'entendais pas de voix alors qu'on m'avait dit que. Donc je suis obligée de dénoncer tout le monde là.
Ça s'appelle un règlement de compte à OK Corral.
Voilà.
Alors, comme on s'oppose un petit peu justement aux catégories, je dirais que pour moi ça pose pas forcément problème, puisque le terme d'entendeur de voix permet justement de sortir des diagnostics habituels de la psychiatrie.
Mais avant que tu rentres dans ton discours, explique-nous ce que c'est, parce que nous ne savons pas ce que ça veut dire entendeur de voix.
D'accord. Alors effectivement, les entendeurs de voix, c'est des personnes qui se reconnaissent dans l'expérience d'entendre de voix, c'est-à-dire d'entendre éventuellement quelqu'un parler sans une présence physique de cette personne. Après, l'origine de la voix, elle peut être très diverse. Hein, ça peut venir de l'extérieur, d'une partie du corps, de l'intérieur de la tête. Voilà, il y a une très grande diversité d'expériences.
D'accord. Et donc, tu disais que c'est en psychiatrie, c'est considéré comme...
Alors, il y a souvent un diagnostic de psychose ou de schizophrénie qui est posé pour les personnes qui entendent des voix.
Alors toi, puisque tu n'entends pas de voix, mais où tu ne veux pas me dire que tu entends des voix, donc tu, en revanche, tu as participé à des groupes d'entendeurs de voix. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe? Parce que nous, on a fait venir quelqu'un de l'atelier du non-faire avec Simonetta, mais apparemment Simonetta, elle n'est plus là. Et justement, ils avaient l'intention de monter, tu vois, un groupe de parole, de personnes qui entendaient des voix, parce qu'elles considéraient qu'en fait, elles entendaient vraiment des voix et qu'elles voulaient en discuter ensemble, et puis ne plus qu'on les considère comme des appelé fou.
Bah, comme pathologique.
Comme pathologique.
Que c'était un groupe d'entraide mutuelle et que l'une des participantes, effectivement, entendait des voix,
voilà,
et nous en a
ça.
Parlé.
Elle nous en a parlé un peu.
C'est exactement le principe des groupes d'entendeurs de voix. C'est effectivement d'échanger sur l'expérience en dehors de toute stigmatisation ou jugement ou considération, on va dire, théorique enfin, ou médicale, voilà, portée sur cette expérience.
Mais alors, toi qui as assisté à un groupe de parole.
Oui, alors en fait...
Participé même.
Oui, enfin, en fait, voilà, nous avons Sonia, et donc Sonia, une entendeuse de voix, qui fait partie du réseau et qui est
qui
sur l'île.
Qui n'a pas pu venir,
malheureusement.
C'est vrai.
Voilà, donc Sonia et moi avons débuté un groupe d'entendeurs de voix dans la banlieue de Lille en décembre 2010.
D'accord. Et qu'est-ce qui se dit alors dans ces groupes?
Alors, en fait, rien que le fait de proposer à des personnes qui jusqu'ici ont été psychiatrisées, d'échanger, de parler simplement de l'expérience d'entendre de voix, ça fait démarrer le groupe instantanément. C'est-à-dire que nous, même pour mettre en place le groupe, il y avait des questions logistiques qui se posaient. En fait, c'était très difficile à aborder avec le groupe parce que les gens avaient ce besoin exactement d'en parler. Et ben, c'est déjà expliquer en fait ce qui se passe et parler de ce qu'on vit. C'est-à-dire que la personne, ce qu'elle vit tous les jours, parce que les gens, ils passent souvent leur journée avec leur voix et leur nuit. Donc, en psychiatrie traditionnelle, cette expérience-là, elle est très rarement explorée. Et au contraire, on cherche à divertir les gens de cette expérience. Donc, il y a un isolement. Parce que même en psychiatrie, bien sûr, mais même dans la famille, dans l'entourage, c'est extrêmement difficile d'en parler. Donc, il y a l'isolement qui se produit instantanément. Et puis, y a la nécessité de comprendre. C'est-à-dire que pour la personne, la première fois qu'elle entend une voix, c'est souvent une surprise. Donc, ça dépend à quel âge ça se produit. Quand ça se produit à enfant, éventuellement, la personne peut considérer que c'est normal, en fait, et que tout le monde entend des voix.
Oui.
Mais quand ça survient plus tard, et pour beaucoup de personnes, ça survient à l'adolescence ou adulte jeune, c'est une énorme surprise. Et d'abord, il y a l'idée que c'est quelque chose qui va passer. Et rapidement, après, il y a la nécessité de trouver une explication. Et ce processus-là, de chercher une explication, ben, en fait, il se fait tout seul. Il y a souvent personne à qui la personne peut en parler, personne autour d'elle. Et donc, dans le groupe,
si elle en parle, à ce moment-là, tout de suite, c'est psychiatrisation.
Exactement.
Quoi, c'est
voilà,
ça.
Tout à fait. Déjà, c'est la peur.
Oui, la peur, oui.
C'est la peur immédiatement, c'est « Ah, mais il est malade » ou « Elle est malade ».
Oui, c'est ça. Ouais.
Et il ne faut pas en parler, parce que ce serait entrer dans le délire, entre guillemets, de la personne.
Il ne faut pas parler des voix avec des personnes qui entendent des voix.
Il ne faut pas parler de ce qu'elles entendent.
Il ne faut pas parler de ce qu'elles entendent.
Voilà, ça c'est la prescription psychiatrique traditionnelle. Voilà,
c'est-à-dire qu'en psychose, ce qu'on nous apprend, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans le délire du patient. Et si justement on décide de ne pas entrer dans le délire du patient, premièrement ça veut dire que c'est un délire. Deuxièmement, ça veut dire qu'on prétend nous ne pas délirer. C'est-à-dire ne pas connaître le fait qu'on a en nous un noyau psychotique, schizo ou parano, qu'importe. Et à partir de là, stigmatiser l'autre avec qui on ne va pas discuter. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était le contraire.
Ouais.
Que moi, je dois plonger dans mon délire pour rencontrer celui de l'autre. Et à ce moment-là, on en parle normalement.
Voilà. Mais alors, est-ce qu'eux, ils considèrent que c'est un délire? C'est pas un délire, entendre des voix.
Non, pas du tout.
C'est une réalité, quand même, bien concrète.
Tout à fait, exactement. Hein, c'est une réalité, du coup, qui les occupe beaucoup.
Ouais.
Après, alors effectivement, si on veut reprendre les catégories, c'est vrai que le délire, ce serait plutôt des idées, enfin, ou des convictions qu'on trouve dérangeantes ou qui sont inhabituelles.
Oui.
Effectivement. Donc, ça fait partie aussi des choses qui peuvent être discutées dans le groupe. Et quand on dit entendre deux voix, d'ailleurs, c'est restrictif. C'est-à-dire, très souvent, les personnes disent « Mais moi, j'ai des sensations tactiles ou olfactives, etc. » Ça fait partie intégrante des choses qu'on discute.
Est-ce qu'il y a aussi des images? Parce qu'il y en a
des images, tout à fait. Oui, des visions, des images.
Visions,
oui,
voilà,
tout à fait.
Oui,
des visages, par exemple, qui apparaissent sur les sur le visage des personnes dans la rue, qui sont des phénomènes très effrayants aussi.
Et donc, tu peux... parce que c'est vachement intéressant. Et qu'est-ce que les personnes, dans ces groupes, elles disent? Est-ce qu'elles... Alors, ces voix, c'est quoi? C'est des voix qui sont gentilles, c'est des voix qui sont méchantes, c'est des voix qui ordonnent de faire des choses, c'est des voix qui sont amicales, tu vois, presque comme si on avait un ami, en fait, avec qui... Mais c'est... Non.
Alors, quand les personnes arrivent en psychiatrie, et donc deviennent patients psychiatriques, c'est rarement que les voix sont confortantes ou amicales. C'est qu'elles ont pris un tour plutôt agressif, dénigrant, voire très destructeur.
Ouais.
Donc, alors, il n'y a pas de généralité. Hein, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les catégories, elles tiennent pas. C'est-à-dire qu'il y a un continuum, en fait, entre nous, entre guillemets, qui avons souvent un critique intérieur ou qui entendons, enfin, qui avons parfois des idées, en tout cas moi c'est mon cas, qui me paraissent venir de l'extérieur, des phénomènes comme ça, avec jusqu'à la voix effectivement totalement extérieure.
Mmh.
Donc tout ça, déjà rien que de prendre conscience que notre expérience elle n'est pas unique, qu'elle peut recouvrir l'expérience d'autres personnes, tout en étant éventuellement un peu distincte, c'est déjà très important pour les personnes.
Donc il y a des voix qui sont,
alors les voix, voilà,
qui peuvent être destructrices.
Ouais, tout à fait. Donc alors souvent il y a plusieurs voix, et le plus souvent il y a une voix dominante, hein, qui peut être masculine ou féminine ou voire enfin asexuée ou voire pas humaine d'ailleurs.
Ah bon, il y a des voix qui sont un peu.
Oui, tout à fait, qui peuvent être démoniaques ou le diable par exemple revient souvent.
Robotique.
Robotique, oui, tout à fait, oui, pas, oui, voilà, pas, pas vivante, enfin, oui, tout à fait. Alors après, la voix peut avoir une identité qu'elle assume, qu'elle revendique, elle peut se présenter avec son nom.
Ah, d'accord.
Elle peut avoir une personnalité entière. Et voilà. Après, ça dépend aussi, enfin, la connaissance de la voix, elle va dépendre de la relation que la personne a établie avec ses voix. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ont établi une relation assez approfondie avec leur voix, et du coup, on va avoir énormément d'éléments sur l'identité de la voix.
Ça veut dire que ces personnes-là acceptent, alors, acceptent de, en fait, de presque de dialoguer, de parler avec cette voix.
Oui, alors ça, c'est, ouais, ça fait partie des propositions du réseau, justement,
qu'il
est important pour mieux vivre avec ces voix, déjà de les accepter, et d'engager, effectivement, le dialogue avec elles.
Et dans ce dialogue, est-ce que on répond à voix haute ou est-ce que c'est à voix basse intériorisée ?
Alors ça dépend des circonstances, parce que quelquefois, il est un peu nécessaire de répondre à voix haute. Par exemple, quand la voix peut hurler et ou voilà être élégante. Et dans ces cas-là, c'est comment faire, comment réagir, et ça peut être nécessaire pour la personne d'hurler à son tour.
D'accord. Hein,
donc c'est vrai que répondre intérieurement, c'est pas forcément adapté à ce moment-là pour agir. Donc ça, à la limite, on peut trouver des modes opératoires pour que ce soit possible.
C'est-à-dire,
par exemple, un des conseils, c'est d'utiliser un téléphone portable, même un faux. Hein, quand, par exemple, dans la rue, on a besoin d'engueuler sa voix, là, c'est tout à fait possible.
Aujourd'hui, oui, parce que t'as tellement de gens qui parlent, non, mais qui parlent dans leur truc. Tu les croises, tu dis, mais à qui parle ?
Ben oui, parce qu'ils n'ont même pas le portable.
Parce qu'ils n'ont même pas, oui, ils ont les trucs.
Le micro ne se voit pas, et tu dis, mais ils parlent tout seul, ils ne parlent pas tout seul.
Ça va être peut-être plus facile, alors, aujourd'hui. De pouvoir parler de ça, voilà. Du fait des portables.
Oui. Après, il y a, dans l'aménagement de la relation, il y a aussi l'idée de donner un rendez-vous aux voix. C'est-à-dire que...
Tu viens à telle heure, de telle heure à telle heure.
Voilà. C'est, écoute,
et après, tu ne me fais pas chier.
Avant 20h, je ne t'écoute pas, de toute façon.
Ouais.
On va convenir d'un rendez-vous. De 20h à 21h, par contre, je te consacre mon attention.
Ma question tout de suite, ça marche ?
Oui, bien sûr.
C'est extraordinaire,
Alors, après, il faut trouver... Il faut que la personne trouve ce qui marche pour elle. C'est-à-dire que l'aménagement des rendez-vous, etc., ça ne marche pas toujours. Après, il peut être nécessaire de prendre du temps aussi. C'est-à-dire qu'il y a des techniques qui sont plus, qui marchent moins à long terme, comme par exemple tout ce qui est diversion.
C'est-à-dire
En fait, focaliser son attention sur autre chose.
Ah oui, ça ne marche pas.
Une activité.
Ah oui, d'accord.
Ou écouter de la musique.
Ouais, ça ne marche pas.
Ça, c'est bien ponctuellement.
Oui.
Après, à long terme, ça ne permet pas de reprendre un peu de pouvoir sur sa vie.
Sur la voix.
À un moment, il faut s'affirmer, en fait, par rapport à la voix. D'où l'intérêt, par exemple, de la prise de rendez-vous. Mais déjà, dégager un petit peu de temps. Par exemple, pour échanger avec quelqu'un. C'est-à-dire quand on est dans le groupe, par exemple, ou en session individuelle, c'est intéressant de proposer à la personne, là, est-ce que tu peux lui demander de te laisser tranquille juste 2 minutes ? Juste 2 minutes, c'est tout.
Ouais.
Et on fait bien comprendre à la voix qu'on n'a rien contre elle. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rejet, on ne veut pas la faire disparaître. On a juste besoin à un moment donné, d'échanger avec la personne, de se mettre d'accord sur des choses. Donc on a besoin d'un petit peu de tranquillité.
Et est-ce que si une voix qui est agressive et tout, est-ce que vous pouvez, est-ce que c'est possible de pouvoir la changer? Et de cette voix agressive et méchante, entre une, est-ce que par justement une préhension entre la voix et la personne, est-ce que cette voix peut devenir s'améliorer et puis devenir plus cool, ou c'est pas possible?
Alors, en fait, l'idée, ce serait de retrouver l'intention de la voix, c'est-à-dire pourquoi elle est là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là par hasard, en fait, et justement dans le respect qu'on porte envers la voix, il y a l'idée d'explorer, en fait, son intention, sa raison d'être, la raison pour laquelle elle est là auprès de la personne.
Et donc c'est la personne qui l'interroge.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Oui.
Et alors, les réponses?
Oui, alors, variés, bien sûr, c'est très varié. Oui, tout à fait, bien sûr, c'est très varié.
Une personne avec le groupe, quand même.
À part avec le groupe ou en... Oui, tout à fait, oui, effectivement. Il faut, enfin, on peut imaginer qu'elle fasse ce travail-là toute seule.
Ouais.
Mais disons que voilà, c'est quelque chose qu'on peut proposer, en tout cas, à la personne. Et d'explorer, effectivement, l'intention de la voix. Alors, ça, on le fait, je vais dire, une fois qu'on a déjà commencé à reconstruire l'histoire de vie de la personne et de la voix, et des voix. C'est-à-dire que on va s'intéresser au moment où les voix sont apparues. Comment la relation a évolué dans le temps? Est-ce que les voix ont changé dans le temps? À quel moment?
Et est-ce qu'il y a une raison qui revient souvent pour l'apparition des voix, ou c'est que des choses qui sont très personnelles et tout? Est-ce qu'il y a, tu vois, est-ce que le moment où les voix apparaissent a été particulier à peu près pour tout le monde, ou est-ce que c'est des choses différentes?
Alors, toujours pas pour tout le monde, mais disons que pour les personnes qui deviennent patients psychiatriques du fait des voix, pas pour d'autres raisons, mais du fait des voix, on estime à plus de 70% des cas, enfin c'est pas une estimation, c'est des observations,
réalité,
à plus de 70%, il y a une expérience traumatique.
D'accord.
Qui est souvent répétée, d'ailleurs. Ça peut être, ça n'apparaît pas forcément lors du premier événement traumatique, mais éventuellement lors du deuxième événement traumatique. Pour une bonne proportion des personnes pour qui c'est le cas, c'est des abus sexuels, physiques, psychologiques dans l'enfance.
D'accord.
Donc ça, c'est très, très récurrent, même si, une fois de plus, on ne peut pas généraliser.
Oui, oui.
Et
non,
on peut entendre des voix sans, sans avoir ce type d'expérience.
Oui, oui. Donc on avance après, donc on a commencé à prendre conscience qu'on entendait des voix, donc après c'est le deuxième
donc reconstruire pas. Reconstruire l'histoire de la personne avec la présence des voix, et à ce moment-là, effectivement, établir un dialogue avec une voix, de préférence. Au départ, on va laisser la personne choisir, d'ailleurs, la voix avec laquelle elle se sent le plus à l'aise, parce qu'il y en a qui peuvent être trop effrayantes pour s'adresser à elle. Et à ce moment-là, effectivement, questionner la voix par l'intermédiaire de l'entendeur de voix. C'est-à-dire que la personne qui entend...
La personne qui entend
va formuler les questions auprès de la voix. C'est-à-dire qu'on va lui proposer une question, il la formule auprès de la voix, et il dit la réponse de la voix.
Ah oui, d'accord.
L'entendeur de voix devient médiateur.
Exactement.
D'accord.
Tout à fait. Et donc là, dans l'intention... pareil, alors c'est toujours gênant de généraliser, mais disons qu'il y a souvent l'idée d'aider la personne à un moment donné dans la vie, et notamment face à ce que la personne a vécu d'extrêmement difficile.
D'accord.
D'ailleurs, la voix peut avoir évolué dans le temps, d'une utilité immédiate, de soutien, de compagnie, comme tu disais tout à l'heure, vers une sorte de dénigrement ou de... Enfin, de dénigrement, en fait, qui peut prendre la forme après d'une sorte de bouge-toi le cul aussi. C'est-à-dire, défends-toi et...
D'accord, ok.
Voilà, c'est-à-dire que
En fait, ça peut être constructif pour la personne.
Exactement.
C'est quelqu'un qui la booste, qui la bouscule,
exactement,
qui lui dit tu vas pas rester tout le temps en train de m'écouter ou de m'entendre.
Oui. Ou de ne rien faire.
Ou de ne rien faire.
Voilà. Mmh. Par exemple, une de mes amies, Eleanor Langdon, qui est maintenant psychologue et qui donc a été diagnostiquée schizophrène quand elle avait 18 ans, sur ordre de la voix, pratiquer beaucoup d'automutilation, des choses assez dures. Elle a même été d'ailleurs jusqu'à essayer de se percer le crâne avec une perceuse, tellement elle ne supportait plus d'entendre les voix, hein, parce que c'est quelque chose d'extrêmement... comment dire, c'est envahissant, c'est vraiment submergent comme expérience.
Ben oui.
En fait, elle a toujours, au jour d'aujourd'hui, donc elle entend toujours ses voix, donc une voix dominante en particulier, une voix masculine, et qui est toujours dénigrante. Mais en fait, elle le prend maintenant comme un avertissement, comme quoi il faut qu'elle prenne soin d'elle. C'est-à-dire qu'elle sait que quand la voix revient, c'est à un moment donné qu'il faut qu'elle fasse attention à elle d'une façon ou d'une autre. Et elle le décrit très bien, ça, en fait, justement, quand elle préparait ses examens, parce qu'elle a brillamment réussi ses études de psycho. Elle le dit à un moment, c'est oui, parce que la voix lui dit, mais tu es nulle, tu ne vas jamais rien réussir, de toute façon, tu es une merde, tu n'as jamais rien pu faire de ta vie, etc. etc. Bah, c'est souvent quand même le contenu des voix.
Elles ne sont pas cool, ces voix-là.
Elles ne sont pas cool du tout. Voilà. Elle dit, oui, c'est vrai, tu as raison, je vais faire une pause, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Voilà. Elle prend en compte.
Ça me dérange qu'il y ait des voix comme ça, parce que moi j'avais un patient, il s'appelait Patrick, et la voix disait « Je suis le divin Saint-Ange, tu es le divin Patrick », et ils avaient des moments heureux, et il avait beaucoup de mal à revenir dans un autre fonctionnement qui était à mi-chemin entre les voix, et le reste c'était emmerder les nanas. Donc quand il avait des médicaments, les médicaments tassaient le symptôme, nous ce qu'on essayait de gérer, pas de médicaments, et être entre deux, quoi, pas avoir d'impulsion vers les nanas. Mais si il n'arrivait pas à régler le moment, il était juste au milieu, ça y est, il avait de nouveau le divin Saint-Ange qui lui rappelait qu'il pouvait être un divin Patrick. C'était très délicat.
Alors, il y a des voix positives. Il y a des voix positives. D'ailleurs, à Armentières, où on avait organisé l'an dernier une formation sur le dialogue avec les voix, on a pu vivre en direct la transformation d'une un jeune homme en fait qui entendait des voix depuis une bonne quinzaine d'années. En tout cas, depuis une quinzaine d'années, il était... Alors, je dis psychiatrisé, c'est pas un très joli terme, mais disons qu'il était rentré... Il était devenu patient psychiatrique depuis une quinzaine d'années.
Tu sais que psychiatrisé, c'est au groupe à formation.
Oui, c'est le... ça s'est dit, oui.
On l'a repris à notre point, on dit
d'accord.
Ça.
Ah, oui,
oui. On dit ça plutôt que malade mentaux.
Oui, puis on...
Ça, je supporte pas ça, moi.
Non, non plus. Non. Mais on pense pas que c'est moche, mais simplement, c'est un peu offensif.
Oui.
Et c'est ça qu'on indique, quand même.
C'est ça, oui.
Et donc au cours de la formation, en tout cas dès la première demi-journée, il a été proposé justement aux personnes, donc les entendeurs de voix venaient avec un professionnel qui les connaissait, qui les côtoyait depuis un certain temps, l'idée étant que le travail se poursuive derrière.
C'est quoi, que quand tu appelles un professionnel, c'est
donc là c'était des infirmières.
Ah, carrément des infirmières. Parce qu'ils étaient psychiatrisés.
Ah bah oui, oui, tout à fait. C'était des personnes hospitalisées pour la plupart, en fait. En tout cas, à temps partiel.
Ces infirmières devaient avoir un esprit ouvert, ce qui n'est pas systématique.
Oui, alors...
Je suis pas sûr, vas-y, tu peux dire tout ce que tu veux ici.
Plus ouvert chez les infirmières quand même. Parce que les infirmières, elles côtoient vraiment les personnes et à un moment donné, elles ne peuvent pas faire comme si l'expérience n'existait pas. Il faut rentrer en relation sur l'expérience. On ne peut pas être dans le déni. Alors qu'un psychiatre qui voit la personne un quart d'heure, une fois de temps en temps, peut faire effectivement comme si ça n'existait pas.
Lui, c'est pronostic, diagnostic, traitement.
Voilà.
Quand tu as ce symptôme, on ne veut rien entendre.
Quand tu as donné le diagnostic, il ne faut surtout pas le changer parce que tu es toujours comme ça et tu resteras toujours comme ça. Alors donc, Armentières.
Donc ce jeune homme, effectivement, qui était avec ses infirmières qu'il connaissait depuis plus d'une dizaine d'années, il a, avec elle, commencé à explorer son histoire de vie et l'histoire des voix dans sa vie. Et après cette demi-journée, on a eu un temps d'échange. Et en fait, l'infirmière s'est effondrée. Elle a dit, je me rends compte que je ne le connaissais pas. Ouais. J'ai côtoyé quelqu'un, elle s'est présentée presque... Enfin voilà, elle était très proche de lui.
De lui.
La référente.
Et elle s'est rendue compte, tout à
parce
fait.
Parce qu'il n'avait jamais parlé vraiment avec elle de son histoire.
Bien sûr. Bien sûr, puisqu'on ne parle pas des voix, on ne doit pas parler des voix.
Ouais.
Donc comment parler de l'histoire des voix dans la vie de la personne? Et comment parler de la vie de la personne?
Ça, d'ailleurs, à travers c'est un ces des... voix, oui, c'est ça, ouais.
Tout à fait. Et donc, il y a une formulation succincte que je trouve pas mal, c'est l'idée de, plutôt que de demander qu'est-ce qui ne va pas chez vous, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour vous.
01 43 71 89 40, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, ni Dieu ni maître, mais avec des voix. Camille.
Nicole, tu peux expliquer la plage musicale ?
C'est Chantal qui va l'expliquer, parce que moi, je n'en sais rien. Hein. Non,
c'est des entendeurs de voix du réseau d'entraide des entendeurs de voix de Genève, avec qui nous collaborons. Et donc, c'est un CD qui a été fait sur une personne qui est facilitatrice du groupe d'entendeurs de voix à Genève, un des groupes d'entendeurs de voix à Genève. Voilà, donc, on entend des voix. Ça a été rejoué.
Ok.
À toi de faire, Camille.
Fallait pas me dire que tu voulais faire une expérience.
Le repas est prêt. Tu triches. Dans le quartier, sa mère, on l'appelait le poison.
Je veux te faire la peau sur place.
Le requiem de Mozart fait s'écrouler les murs de la cathédrale.
Elle prend le tram.
Connard !
Salut.
À l'école, on a des relations télépathiques.
Tu oses ? Tu oses pas ?
Débrouille-toi tout seul.
Allez bien ? Oui, tout belle.
Il est beau.
Marche à gauche.
Achète. Profite de l'occasion.
Marche à gauche.
Connard.
Marche à gauche.
Occupe-toi de moi. Il s'en fout. Quoi, ça ? Mets le feu à la maison.
En revanche, Neptune est dépourvue de terre et de mer.
La météo y est plus facile à anticiper. Chaque jour, il ne s'y produit rien d'autre que des vents d'une force phénoménale.
Sur des planètes géantes.
Quel dommage. Avec ce smash, il a redonné une source à Tomia, c'est une balle. Peut aller jouer cette balle, pas de difficulté pour lui pour la placer au bon endroit. C'est une image étonnante, le désarroi de Inès et de Mirka, et puis derrière elle, la choix de.
Du siècle nous contemple. Intacte. Cette mosaïque, probablement la plus grande du monde, a été retrouvée dans la ville israélienne de Lod. Elle faisait sans doute partie de la demeure d'un riche romain.
Coucher. Reste réveillé toute la nuit. Nous allons t'enlever ta spontanéité.
Nous allons t'enlever ta spontanéité. Tu marches. Tu mets un pied devant l'autre.
Nous marchons.
Tu n'es plus seul.
Nous marchons.
Nous mettons un pied devant l'autre. Tes yeux sont ouverts. Nos yeux sont ouverts. Nous allons t'enlever ta spontanéité. Tu marches. Tu mets un pied devant l'autre. Mais tu n'es plus seul.
Nous marchons.
Nous mettons un pied devant l'autre.
Tes yeux sont ouverts.
Nos yeux sont ouverts. Nous allons t'enlever ta spontanéité. Tu marches. Tu mets un pied devant l'autre. Mais tu n'es plus seul. Nous marchons. Nous mettons un pied devant l'autre. Tes yeux sont ouverts, nos yeux sont ouverts.
Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Cette voix-là est particulièrement prenante puisqu'il dit qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Oui, celle-là, elle veut se faire entendre.
Oui.
Donc en fait, comme tu disais Chantal, c'est des banalités qui se disent souvent.
Bah, c'est souvent dans la vie quotidienne. Hein.
Alors, moi, je dirais pas ça, parce que les voix, justement, elles ont une connaissance intime de la personne.
De la personne, d'accord.
Et ce qu'elles disent est rarement non pertinent. C'est pas toujours pertinent, mais c'est rarement non pertinent pour la personne.
Mmh. Ça tape dans le mille.
Oui, voilà, exactement.
Mmh. Ça a du sens.
Oui, mais, ça a une portée. Ouais.
Ouais, mais, et ça peut pas, avec une psychanalyse, c'est pas... Ça... On les envoie tout de suite en psychiatrie. Est-ce que tu as entendu ou est-ce que tu connais des personnes qui auraient fait une psychanalyse ou un travail sur elles de thérapie par rapport à ces voix?
Alors oui, ça se fait. Après, moi, je suis pas du tout spécialiste de la psychanalyse, notamment avec les personnes qui entendent des voix.
D'accord.
Mais effectivement, il y a même des articles qui ont été écrits par des personnes qui ont pris en cure des personnes qui entendent des voix. Donc, avec un diagnostic souvent d'ailleurs de schizophrénie. Hein.
Ah oui,
donc,
toujours.
Ou alors un autre truc qui est pas mieux, psychose hallucinatoire chronique.
Mmh. Voilà.
Ça, c'est, ouais, d'accord.
C'est des coups de massue en fait. Hein.
Parce qu'en fait, les voix ne te quittent jamais. Est-ce qu'elles peuvent s'en aller un jour?
Oui, elles peuvent s'en aller.
Oui.
Elles peuvent s'en aller. Là aussi, on a les... Ouais.
Des exemples. Et si tu lui dis, tu me fais chier, va, casse-toi, j'en ai marre, casse-toi, pauvre con. Est-ce qu'elles obéissent ou est-ce qu'elles risquent de se fâcher? Parce que c'est une réalité quand même, c'est vachement concret, quoi.
Oui. Oui, alors, à mon avis, c'est rare qu'elles partent. Hein. Par contre, le ton monte, effectivement. Mais ça peut être nécessaire, ça peut faire du bien de s'engueuler aussi.
Ouais.
Ben oui.
Mais je pense pas que ça les fasse partir. Généralement, ça fait monter la tension.
Ouais.
Avec les voix difficiles, on dit qu'il faut être compréhensif. Comme avec les psychiatres difficiles, d'ailleurs. On agit de la même façon, en fait.
Et est-ce que les gens, les personnes donc, qui entendent des voix, parce que là, quand tu dis ça, bon, ça me fait penser, par exemple, comme un enfant, tu vois, qui, et que tu gronderais, tout ça, les gens, ils perçoivent ça comme... Enfin, c'est difficile à dire, hein, mais... Est-ce qu'ils arrivent à concrétiser? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est après quand ils se mettent à le gérer, est-ce qu'ils le gèrent comme un enfant, comme une ou alors une adulte un peu chiante et qu'il faut aussi de temps en temps remettre à sa place, une sœur, un frère ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que ça reste quand même toujours une voix qui n'a pas de
une entité?
Oui, qui a ouais.
Alors, il y a là aussi autant de situations oui, qu'à de personnes, ouais. Mais il y a une illustration en fait qu'on utilise dans les formations sur le dialogue avec les voix, avec une jeune femme qui entend trois voix. La voix d'une petite fille qui pleure, la voix d'une jeune femme qui l'insulte, hein, qui la secoue, et la voix d'une autre femme qui l'aide. Qui la soutient. Et donc, c'est, bien sûr, c'est une illustration qui est d'école, enfin, qu'on utilise justement parce qu'elle illustre très bien ce que peut être un parcours, entre guillemets, enfin, une histoire avec les voix. La voix, en fait, quand on reconstruit l'histoire de la personne et des voix dans sa vie, la voix de la petite fille qui pleure est apparue quand elle était, cette jeune femme, quand elle était enfant, était abusée par son oncle. La voix de la jeune femme qui l'insulte est apparue quand cette jeune femme a voulu porter plainte contre son oncle, une fois arrivée à l'âge adulte, et qu'elle y a renoncé sous la pression de ses parents.
D'accord.
Et la voix bienveillante est apparue quand elle a commencé une psychothérapie, en fait. Et ça, alors ça paraît, dit comme ça évidemment, ça paraît limpide, c'est un peu caricatural.
C'est pas comme ça que ça se passe,
Mais disons que c'est pas forcément clair pour la personne, en tout cas, au départ. Ouais. Et du coup, la reconstruction de l'histoire permet de dégager un petit peu ces idées-là. Et du coup, forcément, il y a des façons différentes d'agir avec les voix et de les prendre en considération, hein, puisque tu disais comment elle les traite, effectivement. Et là, par exemple, la voix qui est dénigrante, quelque part, c'est pour elle. Comment je me fais respecter à un moment dans ma vie? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, effectivement, ben, sous la pression de mes parents, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais peut-être que c'était impossible dans le contexte où j'étais à ce moment-là, mais peut-être que plus tard, je peux apprendre, effectivement, à me faire respecter, à faire respecter mon opinion, même si elle n'est pas partagée par d'autres personnes. Les voix agressives, enfin, les voix, en fait, expriment souvent des émotions que la personne a du mal à exprimer.
Ah oui, d'accord.
Donc les voix très agressives peuvent renvoyer effectivement au fait que il y a une difficulté, enfin une difficulté, oui, il y a une difficulté dans la vie de tous les jours auprès des personnes qui nous tiennent à cœur de nous affirmer malgré tout. Donc voilà, et puis se mettre en colère, par exemple, se mettre en colère pour beaucoup d'entendeurs de voix, c'est extrêmement difficile. C'est des. Ou ça va être dans la violence éventuellement. Sinon c'est relativement difficile. Moi j'ai travaillé avec un jeune homme qui était d'ailleurs très impressionnant dans le service où il était hospitalisé. Il faisait peur à tout le monde. C'était en plus un ancien boxeur, enfin il a fait beaucoup de boxe et tout ça. Il faisait peur à tout le monde, sauf que moi je le voyais quand on discutait. Il est à la fois, il disait, mais si je veux, je peux démolir n'importe qui. Et en fait, dès l'instant où il exprimait ça, derrière, il pleurait. Et c'était vraiment, enfin voilà, il avait cette impossibilité, quelque part, à un moment, passer un seuil, d'exprimer une émotion, en fait, qui était très importante pour lui, parce qu'il avait sans doute des bonnes raisons d'être en colère.
Mais alors, les groupes de les groupes de paroles que tu fais, ce sont donc des personnes qui sont hospitalisées.
Ça peut, pas forcément.
Ça peut, pas forcément.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors justement, est-ce qu'il y a des personnes qui ont ces perceptions et qui travaillent, qui sont...
C'est la majorité.
Ah, c'est la majorité.
C'est la majorité des personnes qui entendent des voix, elles n'ont jamais eu affaire à la psychiatrie pour ça.
Ah ouais.
En fait, ça c'est une observation, effectivement, des recherches épidémiologiques. L'entente de voix et les autres expériences sont beaucoup plus répandues qu'on ne le pense.
Ouais.
Les estimations varient entre 4 et 12%. en fonction des études, de la population générale, de la population générale. Donc c'est énorme.
C'est énorme. Et alors ces personnes-là que, dont tu dis se sont jamais passées par le circuit psychiatrique, comment elles gèrent leur voix toutes seules, elles se poussent, elles en parlent à personne ou tu vois, c'est ça?
Alors effectivement, souvent elles en parlent à personne. Par contre, c'est la relation aux voix. Et ça d'ailleurs, c'est l'enseignement, c'est tout l'enseignement. Donc c'est Marius Rom, un psychiatre hollandais qui a démarré le mouvement international sur l'entente de voix.
Et en quelle année?
Ça fait 25 ans.
Ah oui, quand même, ouais.
Oui, alors ça fait partie des motifs de colère. C'est vrai que la France est vraiment derniers pays à s'intéresser au mouvement.
Mais la France est normopathique. Surtout en question de psychiatrie.
De psychiatrie, de prison, tout. Alors il faut pas.
On n'est pas des modèles.
Hein. Non, on n'est pas vraiment pas des modèles. On est des arriérés mentaux d'ailleurs. Et donc c'est passionnant. Je pense que ces gens écoutent et ils téléphonent pas parce qu'ils sont, tu vois, c'est. Et puis Camille, elle doit être contente parce qu'elle m'a demandé l'autre jour c'est quoi. Je lui dis mais j'en sais rien. C'est pour ça qu'ils viennent d'ailleurs parce que moi je sais pas ce que c'est. Oui, donc vas-y.
Cette idée de rencontrer en fait, de faire un appel à témoins. C'est que Marius Rom, il s'est laissé convaincre par une de ses patientes, entre guillemets. Ouais. J'aime pas le terme de patiente, mais bon.
Comment tu dirais alors toi?
Une des personnes à qui il avait affaire.
Qui t'aimes pas beaucoup psychiatrisée, patiente, tu vois.
Donc, on va finir par t'interviewer toi-même.
Donc, parce que vas-y. C'est qui là? C'est nous.
se mettre à entendre des voix.
De toute façon, probablement, il y a une auditrice qui a envoyé un SMS et qui dit j'entends vos voix.
Donc,
il s'est laissé convaincre, en fait, mais à un moment de sa carrière où c'était possible aussi, c'était plutôt vers la fin, par une de ses patientes qui ne voulait pas qu'il considère ses voix comme une hallucination.
D'accord.
Donc, elle a mis un an à le convaincre, hein, il le dit lui-même. Elle a mis un an à me convaincre, mais elle n'a jamais lâché.
Il y avait de grosses défenses.
Voilà.
Comme tous les psychiatres, d'ailleurs.
Institutionnaliser les défenses, en plus.
Oui.
Donc effectivement, elle a fini par le convaincre et ils sont passés tous les deux dans une émission de télé en Hollande pour faire un appel à témoins. Et ils ont eu, donc je crois qu'il y a 700 personnes qui ont répondu, dont 400 qui ont donné leurs coordonnées, ou 450, quelque chose comme ça, et qu'ils ont pu recontacter par un questionnaire pour les interroger. Et donc ils ont rencontré effectivement des personnes qui vivaient bien avec leur voix pour voir comment elles faisaient. Et ce qui change radicalement, donc ça après il y a eu des études qui ont été faites là-dessus pour préciser ça, mais la grosse différence entre les personnes qui vivent bien avec leur voix et celles qui deviennent des patients psychiatriques du fait des voix, c'est la relation.
Avec leur voix.
Exactement.
Donc toi tu penses que les personnes qui ont une mauvaise relation avec leur voix se retrouvent en HP alors, enfin elles se retrouvent plus ou moins... Elles n'arrivent pas à assumer aussi, peut-être. C'est trop difficile.
Oui. Disons qu'elles sont dans une relation... éventuellement, pas forcément. Elles sont éventuellement dans une relation conflictuelle avec la voix.
Oui.
Avec les voix, sans voir justement... Il y a l'idée d'ailleurs, dans le groupe d'entendre la voix, ça c'est très intéressant, parce qu'il y a des personnes qui sont dans des différentes relations, et donc il y a celles qui disent, mais est-ce que ça peut disparaître quand même? Parce qu'il y a cet espoir-là pour certaines personnes, pour qui c'est... Elles les entendent tout le temps. Elles sont dénigrantes, agressives, etc., insultantes. C'est vrai que ça paraît difficile de se dire « je vais l'accepter, je vais vivre avec ». Il y a quand même le désir, qui paraît légitime, effectivement, de s'en débarrasser. Et donc, d'entendre qu'effectivement, c'est possible d'avoir une relation différente, c'est quelque chose qui fait son chemin. Et l'idée... en tout cas, pour moi, au final, l'idée, c'est vraiment... d'accepter les voix, mais aussi de se respecter soi-même et de se faire respecter par la voix. C'est-à-dire que ça, c'est un travail qui est profondément thérapeutique, entre guillemets, en tout cas libérateur. Puisque, comme dit Marius Rom, on a plus envie que les personnes se libèrent plutôt qu'elles se soignent. En fait, on ne pense pas forcément que les entendeurs de voix aient besoin de soins. Mais plutôt, effectivement, de se libérer. Et pour ça aussi, une chose très importante, c'est que la société change. À un moment donné, Donc il y a tout un travail, le regard. Mmh. Et dans le mouvement international sur l'entente de voix, il y a eu, ce travail-là a toujours été, le travail avec les personnes a toujours été associé avec un travail de communication et de médiatisation très important.
Ben c'est ça qui est révolutionnaire.
Mais quand il y a ces groupes de paroles là, de voix, est-ce que les voix, elles doivent peut-être être pas très contentes que les porteuses de voix, je sais plus comment,
les entendeurs de voix,
se parlent comme ça librement de leur voix parce que quelque part elles perdent un peu de pouvoir les voix.
Tu te prends au jeu,
Alors il y a la reconnaissance qui est importante. C'est-à-dire que même pour la voix, le fait de voir son existence reconnue,
oui,
c'est très important.
C'est important.
Et après, le...
Ils sont plutôt contents, les voix.
Bah oui, il ne faut pas les prendre pour des cons.
Bah ouais, non, elles sont plutôt contentes de pouvoir sortir.
Elles s'y retrouvent aussi. Elles s'y retrouvent aussi, d'une certaine façon. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir... Alors ça, c'est sûr. Hein. C'est vrai que quand les personnes parlent de leur voix, pour certaines d'entre elles, il y a une recrudescence, voire une... aggravation, entre guillemets, enfin, ouais, tout à fait, l'intensité peut augmenter, etc., mais c'est qu'est-ce que tu fais, Après, ça, c'est le travail aussi de l'interlocuteur de rassurer les voix. C'est-à-dire, justement, nous, on ne cherche pas à les éliminer. Contrairement à tous les autres interlocuteurs.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc ça, c'est, voilà, un travail qui peut prendre un petit peu de temps.
De toute façon, pour les éliminer, il n'y a que les médicaments.
Ça marche pas toujours.
D'après ce que tu dis, oui, parce que par rapport à une psychothérapie, tout ça, ou une analyse, tu penses que ça peut pas aider à les éliminer complètement.
Ben si, mais est-ce que c'est bien ? Ça peut arriver.
Est-ce que c'est bien ? Voilà, c'est ça. Est-ce que la personne est aussi dans cette demande de... Est-ce que les personnes sont comme tu dis, oui, quand même, il y a des personnes qui disent qu'ils veulent plus les entendre.
Oui. Tout à fait.
Ouais.
Oui.
Donc la question que tu voulais poser, est-ce que les personnes demandent à ce qu'on les aide à ne plus entendre les voix ?
Oui, elles demandent ça. Par contre, c'est une promesse qu'on ne fait jamais. C'est quelque chose qui n'est pas...
Ouais. Tout à fait. Et alors après, quand tu arrives à avoir un contact avec elles et qu'il y a plusieurs groupes de paroles, enfin elles viennent plusieurs fois à des groupes de paroles, est-ce qu'à un moment, justement, elles disent « Ah ben non, maintenant, moi, je veux les garder. »
Oui, bien sûr. Alors là, on a un exemple qui est très beau. C'est une jeune femme, justement, dans le groupe... dans un groupe et qui n'entend plus de voix. Et elle en est très malheureuse.
Ah ouais.
Elle en est très malheureuse. Oui, bien sûr. Oui. De toute façon, elle ne s'est jamais considérée comme malade. D'ailleurs, moi, quand la dernière fois que je l'ai vue, je lui ai dit, mais t'es guérie ? T'es guérie ou est-ce que t'étais malade ? Parce que c'est ça, en fait. Je me dis, quel était le problème au départ ? Le problème, il peut se poser pour l'entourage aussi, énormément.
C'est-à-dire, vas-y, explique.
C'est-à-dire que c'est insupportable pour les personnes de voir quelqu'un échanger avec sa voix ou avoir besoin à un moment donné de s'occuper de sa voix et pas de ce qu'on appelle la réalité autour.
Ouais. Et justement, alors, est-ce que ces personnes qui entendent des voix, est-ce qu'elles arrivent à avoir une relation avec un mec ou avec une nana, une relation intime avec quelqu'un, et est-ce qu'elles arrivent aussi à faire des enfants ?
Bah oui.
Ouais, et comment ça se passe ?
Pourquoi pas ?
Tu vois, parce que moi, je vois ça tellement un truc vachement perso entre toi et ta voix, quoi.
Oui.
T'as pas envie de partager.
On a envie d'en entendre une en tout coup de temps, là.
Tu vois, parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de tellement...
Intime.
Fort intime, tu vois. C'est quelque chose qui vient de toi, de l'intérieur de toi, enfin, tu vois, quelque chose...
Oui. Alors, c'est une bonne question. Alors là, pour moi, c'est les limites de mon expérience à moi. C'est-à-dire que comme je l'ai pas, cette expérience-là, je peux pas dire effectivement à quel point ça peut être intrusif, entre guillemets, mais disons que
t'as rencontré des nanas ou des mecs qui étaient mariés et qui entendaient tes voix,
Oui, bien sûr. Mais il y a quand même besoin de partager. Le fait de partager est quand même extrêmement...
Mais avec des gens,
ça dépend avec qui tu partages.
Ça dépend avec qui tu partages.
Tout à fait. Après, il y a une limite, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne partage pas.
Oui.
Y compris pour les voix.
Ben oui.
Et à la limite, pourquoi ça poserait problème ? C'est-à-dire que ça fait partie... Enfin, je pense que... Enfin, en tout cas, moi, je ne partage pas toutes mes pensées.
Non, mais c'est sûr. Ouais. C'est sûr.
ça paraîtrait insupportable, effectivement.
Oui, mais comme tu dis que c'est aussi insupportable pour les autres, parce qu'ils parlent avec, ils échangent avec leur voix, et tu vois, donc ça peut...
Il y a des contextes où on ne peut pas le faire. Par exemple, justement, on avait eu le cas d'une personne qui... enfin, c'est Ron Coleman. Donc, Ron Coleman, c'est un entendeur de voix devenu formateur en psychiatrie, justement sur le travail avec les voix. Et il cite l'exemple justement d'un jeune homme qui entend des voix, qui a fait un parcours qui fait qu'il se trouve bien. Voilà, il peut travailler. Sauf que, comme ça lui pose pas de problème, au bout de 2 semaines, quand il est dans son boulot, il dit à ses collègues qu'il entend des voix.
Il en parle tout de suite, oui.
Donc il se fait virer.
Et voilà.
Il retrouve un autre boulot.
Bah, c'est ça.
Il repartage. Il se fait virer.
Ouais, c'est ça.
Donc comme lui dira, il dit pourquoi tu le dis ?
Ben oui.
À la limite.
Ouais.
Donc c'est vrai que à la limite, quand ça pose pas de problème, c'est pour ça qu'il faut une évolution sociale aussi, effectivement.
Ouais. Faire comprendre,
à terme.
Alors on est au 01 43 71 89 40, donc c'est le téléphone du studio, et nous sommes toujours sur Radio Libertaire, mais tu le diras après.
Non, non.
La radio de la Fédération anarchiste, ni mieux ni Dieu ni maître, mais avec plein de voix.
Voilà.
Mais on n'est pas chez Jeanne d'Arc, là. Mais c'est Jeanne d'Arc, ça devait être ça, en fait.
Non, non,
c'est l'égérie du mouvement.
Oui.
C'est le symbole.
Nous la revendiquons.
Il faut la confisquer, Le Pen. Non, voilà. Je voulais faire une remarque, parce qu'en écoutant tout ça, il y a une pensée qui m'est venue. Et comme Pascal n'est pas là...
Tu vas faire une Pascaline.
Une Pascaline que je vais lui dédier. Ce sont les défenses des psychiatres qui font les murs de l'asile.
Bon, donc on recommence et on te demande, Camille, on va pas tout recommencer, donc tu nous mets un peu de musique.
Pendant que les charognards aux armures brillantes se pavanent, trinque à la santé des cigarières de la Havane. La tête dans l'engrenage d'un long combat ordinaire, je viens marteler la terre d'un tas de paroles incendiaires mélancoliques. Je ne rêve plus d'équilibre ni d'harmonie. J'entends se rapprocher le grincement des automates sur le fil. Je rêve de ne pas sombrer dans la folie et de finir par avancer le dos courbé à quatre pattes. Les semelles usées, la voir traîner un peu partout, à cravacher comme un chien, la gueule ouverte et l'air de rien. J'en sors traumatisé de gérer ma vie au coup par coup, d'avoir la même rengaine qui vient rythmer le quotidien, toujours à cran. Jusqu'à quand et jusqu'où, jusqu'au dernier retranchement, jusqu'à plus tenir debout. Je ne vois que des caboches saturées de plomb à l'horizon, des visages sans nom qui hurlent seul à l'unisson. Arrêtez ce train. Arrêtez ce train, je veux descendre. Arrêtez ce train. Là-bas il n'y a plus rien que du feu et des cendres. Arrêtez ce train. Arrêtez ce train, j'ai dit je veux descendre. Arrêtez ce train. La foule crie, le scandale, personne ne peut l'entendre. Furieux sentiment d'impuissance me terrasse, me vide de ma substance à mesure que le temps passe. Je n'ai pas choisi le wagon, ni même la direction, et je m'enfonce tout droit dans ce tunnel funèbre en perdition. Une odeur putride plane et lacère l'atmosphère. J'ai la rétine choquée devant le charnier à ciel ouvert. Je ne me reconnais pas dans ce monde, je n'y trouve pas ma place, et je suffoque perdu dans le dédale des couloirs de l'angoisse. Ce train n'a ni queue ni tête, il roule à vive allure et écrase tout sur son passage, moteur au bord de la rupture. À l'intérieur c'est la panique, les neurones court-circuitent. Ça va trop vite pour établir, on connaît tous la suite. Maudit soit la race des puissants, aiguilleurs du chaos. Leurs instincts suicidaires et leurs penchants pour l'échafaud au coin des lèvres. Toujours cette arrogance, ce petit rictus. Mais ils oublient que pour eux aussi, il n'y a qu'un mur comme terminus. Arrêtez ce train. Arrêtez ce train. Je veux descendre. Arrêtez ce train. Là-bas il n'y a plus rien que du feu et des cendres. Arrêtez ce train. Arrêtez ce train, j'ai dit je veux descendre. Arrêtez ce train. La foule crie, le scandale, personne ne peut l'entendre.
Alors, c'était Arrêtez ce train du groupe La Canaille.
Merci Camille, il va falloir que tu te mettes à l'anglais. Hein.
Magali, tu peux fermer la porte.
Oui. C'est pour ça. Bon, alors maintenant, maintenant on va passer aux choses pratiques. Chantal, donc, on va parler donc de ce réseau que vous essayez, que que vous montez, parce que donc l'association existe.
Voilà, depuis septembre.
Elle s'appelle comment alors ?
Elle s'appelle le Réseau des Entendeurs de Voix, Rêve France.
D'accord.
C'est d'ailleurs comme ça qu'on a découvert votre existence.
Oui,
dans le
numéro 1, 2.
Barricade.
Voilà. Barricade.
Et c'est quoi le Barricade ? C'est alors, quoi comme journal de minutes hein ? Enfin, même pas, 30 secondes.
Bon, c'est un journal donc, où on peut trouver beaucoup d'articles très différents, mais qui traitent d'une manière différente de tout sujet qui intéresse aujourd'hui tous les publics qui sont intéressés par des méthodes alternatives, par des façons de penser différentes de la pensée dominante.
Voilà.
Et qui est aujourd'hui au numéro 4.
Hein. Et qui aujourd'hui est au numéro 4.
Ouais. Et il y a plein de dessins. Alors voilà. Vas-y. Donc,
oui, beaucoup d'illustrations.
Oui, beaucoup d'illustrations. Pourquoi toi, tu es tombée dans le
chaudron
dans le chaudron des entendeurs de voix alors que tu n'en entends pas.
Bah alors, bon, moi je suis enseignante de formation et c'est vrai que...
Enseignante en quelle matière ?
Français.
Bon.
Et donc en français, on donne des récits d'invention aux élèves. Et moi, il m'est arrivé deux fois d'avoir des récits d'invention qui, effectivement, avaient un imaginaire très débordant dans le sens où ils n'arrivaient pas du tout à respecter les normes de l'exercice. Et donc c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait peut-être un problème. Et donc j'ai été amenée, une fois c'était un jeune en BEP électronique qui me racontait sans arrêt des histoires de dragons. Et donc j'ai demandé au proviseur de pouvoir avoir un entretien avec lui hors des cours. Et là je me suis rendu compte qu'il ne pouvait pas parler de ces histoires de dragons nulle part. Et que si moi je lui interdisais de parler de ces dragons dans mes copies, ben, il allait se mettre à pleurer. Et donc, il me disait en plus que son père était vraiment furieux, qu'il ne voulait pas en entendre parler. Et donc, j'ai commencé à établir un dialogue avec lui en dehors des cours. Mmh. Et je me suis dit, c'est quand même un peu dur pour ses enfants, pour ces phénomènes, qu'il n'ait pas la possibilité de venir à l'extérieur. Donc, c'était il y a 5-8 ans. Et donc, un jour, quand j'ai entendu les entendeurs de voix, il y avait une émission qui était passée à France Culture sur les docs. Je me suis dit, bon, je sais qu'est-ce que ça peut poser comme problème et comment ça peut soulager si on en parle avec la personne. Tout simplement établir avec elle un lien de sympathie, d'empathie et au lieu d'essayer de faire taire ce qui la préoccupe, d'en discuter avec elle.
Et alors, comment vous vous êtes rencontrés là, tous les trois ?
Alors, c'est le réseau, moi, c'est le réseau des entendeurs de voix de Genève, qui D'accord. existe depuis plus longtemps que nous, qui m'a donné le nom de Yann.
D'accord.
Et puis après, donc, j'ai rencontré Magali. D'accord. Et donc, on a fondé ensemble le réseau des entendeurs de voix. Mais on n'est pas que nous trois, il y a des entendeurs de voix dans le bureau.
Réseau sur l'entente de voix.
Réseau sur l'entente de voix.
Justement, on regroupe toutes les personnes intéressées par le sujet, entendeurs de voix ou non. Proches, professionnels, ouais, de santé mentale, parents, amis, voilà.
Oui, parce que c'est la stigmatisation qui est difficile pour eux. Donc, il faut aussi travailler sur l'entourage.
Et donc, vous avez quoi ? Vous faites des réunions, vous faites des rencontres, ou vous avez un site, vous avez un téléphone où on peut vous joindre ?
Alors, il y a un site internet.
Et là, il y a un blanc.
Non, pas du tout.
Il y a un site internet, donc www.revefrance.org. Donc Rêve France pour Réseau sur l'entente de voix France.
C'est REV.
REV, voilà. Oui. REV Rêve. France. Rêve, oui, sans E. Parce que le rêve complet, c'est celle qui n'a pas besoin du rêve.
Non.
Et on a une adresse mail, admin, A-D-M-I-N.
Oh là là, répète là.
Admin.
Ah, c'est comme administrateur, le nouveau.
admin@revefrance.org.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est les deux moyens d'entrer en contact avec nous.
D'accord.
Pour l'instant.
Et l'objectif, alors, de ce réseau, c'est quoi, exactement ?
Alors, c'est en premier lieu de mettre en relation les personnes intéressées, justement, par une approche ouverte des voix.
Entre elles ou avec vous ?
Eh bien, tous ensemble. Et exactement, d'aider les personnes à initier des groupes un peu partout en France.
D'accord.
Pour que les personnes aient à proximité de chez elles un endroit où elles pourront parler de leur voix.
Ok.
Depuis que vous avez lancé le mouvement, comment vous arrivez à entrer en contact avec des gens ou comment les gens découvrent votre connaissance? Comment ça a démarré, ça?
Alors, il faut dire que nous avons eu quand même, on a bénéficié quand même pour lancer le réseau, on va dire, de l'appui du centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé à Mont-Saint-Barœul. Hein, donc, c'est, il faut dire qu'il y a quand même des gens en psychiatrie qui ont l'esprit ouvert et d'innovation.
Ouais, bah oui,
donc, voilà, ils ont. Donc ils avaient invité en fait Ron Coleman et Karen Taylor, donc qui sont deux piliers du mouvement international. D'accord. Sur l'entente de voix, pour parler justement de cette approche et de la proposition des groupes.
Mm-hmm.
D'accord. Donc suite à ça, Sonia et moi, on a démarré effectivement le premier groupe à Mont-Saint-Barœul.
D'accord.
Il y a des groupes qui ont essaimé, un à Armentières, un à Tourcoing.
Mm-hmm.
Et on espère prochainement démarrer un sur Paris, mm-hmm, et sur Toulouse.
D'accord.
Et puis on va faire des journées, des rencontres.
Alors ensuite, voilà. Alors on a... Sur Armentières, donc, on avait organisé une formation aussi. Donc, et lors de cette formation, Alexandre Breton a réalisé un documentaire qui est passé sur France Culture, mmh, plusieurs fois. Et donc, à chaque fois que le documentaire est passé, il y a des personnes qui nous ont contactés.
D'accord.
Donc, ça, c'est un des moyens, en fait, qui a permis, effectivement, mmh, de faire connaître un petit peu le réseau.
Mmh.
Et après, ben, ça passe aussi de bouche à oreille.
Il faudrait que vous alliez sur le magazine de la santé, sur la 2, là, qui a lieu l'après-midi, parce que de 13h30 à 15h, ça s'appelle le magazine de la santé, hein, vous faites ça, et ils demandent souvent ils demandent pas, mais vous pouvez écrire, et ouais, vous pouvez envoyer un courriel, mm-hmm, en expliquant qui vous êtes et tout, et ils peuvent vous recevoir, quoi, tu, mm-hmm, vois, et parce, mm-hmm, que là, vraiment... Parce que ce sera que par les médias aussi, mmh, mmh, que vous passiez malheureusement par les médias pour vous faire connaître, quoi. Mmh. C'est ça. Pour pas que ça reste un peu
confidentiel.
Oui.
Mmh. Ouais. Enfin, à moins que vous avez envie
de... Non, non, bah, pas du tout.
Pas du tout,
oui,
contraire.
Justement. Pour faire changer, justement, l'image et les mentalités. Ah, bah, oui.
Alors après, on fait fonctionner aussi les réseaux. Voilà. Donc maintenant, nous, on a rencontré des personnes à la Cité de la Santé.
On va avoir
qui sont très intéressées,
ouais,
par ça. On va organiser régulièrement des réunions. On a fait une première réunion ouverte, justement, pour présenter le réseau la semaine dernière, samedi dernier. Et on va en faire régulièrement.
D'accord.
Donc après, s'il y a des demandes aussi... Mmh. Nous, on est prêts à se déplacer.
Oui, bah oui.
Pour organiser des réunions publiques,
ouais,
y compris.
Oui, oui. Et vous pensez
pour ajouter que effectivement, c'est important de nous contacter. Là, il y a eu déjà des appels,
ouais,
hein, mais c'est important de sur le site internet. C'est le moyen vraiment pour l'instant de rentrer en contact avec nous.
Voilà.
Et ouais, on réagit assez
très
vite.
Oui. Oui. Vous êtes des gens efficaces et sérieux. Voilà. Et
t'as une question?
Oui, je voulais dire autre chose. Merde, ça c'est bizarre.
Eh ben, pendant ce temps-là, moi, tu vas retrouver certainement. Oui. Je voulais vous demander à tous les trois, quelles sont vos formations, en dehors de Chantal, dont je sais qu'elle est prof de lettres, mais quelles sont vos formations pour arriver à faire des réunions sur un sujet aussi pointu?
Je dirais pas que c'est un sujet pointu. Enfin, c'est un sujet vrai, réel, important pour les personnes. Et effectivement, peut-être qu'il faut avoir un petit côté du côté un peu de l'originalité et pas du côté de l'académisme. Mais moi, j'ai une formation de psychologue. Voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré Yann pour répondre à une question tout à l'heure. Et voilà, et qu'on a avancé dans ce projet. Voilà.
Oui, d'accord.
Et pour être formateur de voix, alors que pour être formateur,
et
oui.
Toi, enfin, et toi, Yann.
Oui.
Alors, je pars d'où?
Ah oui, voilà.
Ouais.
Elles viennent d'où et tu pars d'où?
C'est certainement pas. Enfin, oui, c'est certainement pas ma formation, en tout cas, qui m'a permis ça. Effectivement, moi, je termine une formation de psychologue clinicien. Enfin, j'ai terminé, là, en septembre dernier, une formation de psychologue clinicien. Ma formation initiale, elle n'a rien à voir, parce que c'était plutôt en médecine vétérinaire.
Ah.
Donc, pour moi, voilà, j'ai tout un parcours qui fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé là-dessus. Mais ce parcours-là, pour moi, il n'est pas anodin, effectivement. C'est vrai que moi, je n'ai pas du tout un sentiment d'étrangeté quand je rencontre les personnes qui entendent des voix et que je parle avec elles. Absolument pas. Et ça vient pas de ma formation.
Eh ben,
c'est une ouverture, c'est une empathie, il y a quelque chose, quoi. Parce oui, que oui, tu peux pas, oui.
Il y a le sentiment, moi-même. Alors, si, quand même, je vais dire quand même. Quand j'étais à l'université, avec des amis, on a créé une association gay et lesbienne. Mmh. Et j'ai vécu la même chose, en fait, dans l'association où on a eu un sentiment, quand on s'est retrouvé, de libération, véritablement. De pouvoir se comporter comme on est soi-même. J'ai retrouvé la même chose dans les groupes d'entendeurs de voix, mais la même chose. C'est pareil. Et Marius Rome le dit toujours. Il dit l'entendre de voix, c'est comme l'homosexualité dans les années 50. Voilà, il y a besoin de libération, pas de soins. Et c'est l'expérience que j'ai. C'est-à-dire que dans les groupes, c'est vraiment l'expérience que j'ai. Donc ça, c'est clair que pour moi, c'est viscéral maintenant. Enfin, je sais pas. Et puis le mouvement... Donc le mouvement s'appelle Intervoice, hein, c'est une association qui est basée en Angleterre. C'est une famille. Quand on se retrouve à Intervoice, c'est une famille. Il y a vraiment quelque chose de... Ouais, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Il y a une acceptation très, très forte. Il y a la possibilité pour chacun d'avoir une place.
Et combien... oui, c'est ça que je voulais te vous demander. Il y a combien de personnes, on ne sait pas le nombre exact de personnes, vous allez pouvoir finir par le savoir, qui entendent des voix, qui vont oser en parler, qui vont oser le dire, parce que pour l'instant, on sait...
Si, la fourchette qui nous a donné
4 à 12 du pourcentage.
À 4 à 12%
4 à 12% sur 65 millions.
Oui, ça fait beaucoup. Ouais.
Bah, ça fait bien 3 à 4 millions de personnes qui entendent des voix.
Ouais.
Ben oui, en France au moins.
Oui, c'est pour ça. Il faut vraiment, il faut faire connaître ça. Oui, c'est quelque chose.
Et au niveau de la planète sur 7 milliards, le chiffre devient conséquent. Hein. Ben oui. Hein, je pense que ça fait peut-être plus de 100 millions. C'est
est-ce que dans certains pays, ça serait, c'est mieux accepté? Est-ce que oui? Selon il y a des pays, selon les coutumes...
Il y a des cultures qui sont moins rationnelles que la nôtre.
Oui, hein. Oui.
Je pense qu'en Afrique noire, Magali...
Non, enfin moi j'en sais rien, je pense pas que ça se... Je le dirais pas comme ça. Non, ce que j'étais en train de penser là, avec ce que disait Jacques, que c'est vraiment important que les gens qui ont été intéressés par l'émission contactent le site, parce que notre idée maintenant, c'est effectivement de favoriser la création de groupes un peu partout en France, là où les besoins émergent, se font jour. Et donc on commence à être en contact avec des gens qui sont dans les régions, mais qui sont encore éventuellement deux, trois, qui se demandent comment monter un groupe, et on peut mettre vraiment les gens en relation. Et je crois que pour l'instant, on a une visibilité sur l'Hexagone, sur l'ensemble de l'Hexagone, et vraiment, donc c'est important de nous contacter pour qu'on puisse renvoyer les gens vers des contacts qu'ils peuvent avoir dans leur région, même si évidemment, ensuite, on peut être disponible pour être là en appui, pour faire des formations, etc., etc.
Oui, et il paraîtrait qu'il peut arriver aux entendeurs de voix de se retrouver en prison aussi.
Ah et, oui comment et pourquoi?
Oui, je ne comprends pas.
Non.
je ne comprends pas. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'est pire que la psychiatrie, mais en tout cas, effectivement, ça arrive aussi. Et il faut savoir que le réseau anglais, hein, parce qu'il y a une vingtaine de réseaux nationaux dans le monde, le réseau anglais qui est le plus développé, a débuté l'an dernier des groupes d'entendeurs de voix en prison.
Ah ouais?
Ouais, tout à fait. Donc ça a été dur, parce qu'il a fallu convaincre l'administration pénitentiaire.
Je m'en doute, oui, qu'ils sont durs d'oreilles, eux,
ils n'entendent rien.
C'est le contraire, ils n'entendent rien, oui.
Mais ils vont essayer de mettre les voix en prison, eux. Oui. Mais
et même quand elles y sont, elles
mais
parlent.
Mais ça se voilà, il y avait des défenses du type, mais c'est impossible, il n'y aura pas de solidarité entre les gens, ils ne vont pas se comprendre, etc. Et donc, d'ailleurs, les gens qui étaient à l'initiative du projet ont douté. À un moment, ils se sont dit, mince, est-ce qu'on va y arriver? Et en fait, quand ça a commencé, au contraire, justement, ils ont fait ça dans une prison de femmes au départ. Ça a été plus facile de convaincre, en fait, pour le faire dans une prison de femmes. Je ne sais pas pourquoi non plus.
Parce que les femmes sont plus intelligentes.
Oui, et plus sensibles.
Ah, c'est plus sensible. Ah, bah oui.
Donc capables de mieux accueillir ce qui paraît étrange.
Oui.
Parce que les mecs, la Suisse, les jours rigides et dogmatiques, pas du tout, ça n'existe pas. Moi d'ailleurs, j'en entends pas. Je vois le cinéma. Hein.
Bon, vous redonnez l'adresse avant qu'on se quitte.
Oui.
Les sites et
donc,
tout.
Donc www.revefrance.org et l'adresse mail admin@revefrance.org.
Et, comme disait...
et si vous tapez Rêve France sur n'importe quel moteur de recherche, de toute façon, vous allez nous retrouver.
Voilà, et comme disait Magali, rêve R-E-V seulement.
Oui, sans jeu.
Oui, sans eux.
Est-ce que Camille, tu as entendu des voix? Est-ce que maintenant tu sais ce que c'est qu'un entendeur de voix?
Parfaitement, oui.
Voilà, bon. Eh ben, c'est parfait, on vous remercie beaucoup.
Merci à toi, Nicole.
Et
merci
puis,
merci
à tous les dans trois, quelques hein. mois, quand ça sera un peu plus étoffé, vous reviendrez.
J'avais cru entendre le contraire, mais alors, je suis ravie, ma chère Nicole.
Non, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Moi, je suis un peu comme toi, ça me... Tu vois, je ne sais pas si je pourrais faire de la formation ou des choses comme ça, mais c'est un côté qui est fort intéressant, parce que je pense que, quelque part, il y a des voix qu'on n'entend pas, mais qu'on entend quand même, quoi.
On va faire parler beaucoup. Ta voix dans une prochaine réunion.
Voilà.
Oui, j'ai l'impression qu'il va falloir que ta voix sorte.
Il va falloir que ta voix sorte.
Ah oui, parce que là...
On va te soulager, Nicole.
On pressent déjà des murmures, voire des balbutiements.
Merci beaucoup à vous
merci.
Trois. Hein. Et puis, bah, à bientôt, alors.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Ouais.
Au revoir.
Au revoir.
Alléluia, alléluia.